On a en studio Louis-Philippe Hébert, président, directeur des sommets ici dans la belle région des Laurentides. Monsieur Hébert, on voulait vous recevoir ce matin parce qu'on a lu les conclusions du rapport Ouranos sur l'adaptation des changements climatiques pour les stations de ski, précisément des cantons de l'Est. Donc, trois stations qui ont reçu des scientifiques, plusieurs chercheurs qui sont venus analyser un peu l'impact des changements climatiques. Et on se demandait... Vous, vous en avez pensé quoi et quel est l'écho pour la région des Laurentides chez nous?
Tout d'abord, bon matin. Merci beaucoup de me recevoir, Mme Vachon. Ce qu'on pense de cette étude, je crois qu'elle n'a pas été bien communiquée dans ce sens que on n'a pas assez mis l'emphase dans la diffusion sur les mesures compensatoires que les stations ont déjà commencé à mettre en œuvre depuis nombre d'années pour contrecarrer les aléas de la météo. C'est ce qui est un peu... c'est ce qui me déçoit là, de cette présentation-là.
C'est ça, parce que ce qu'on disait, en gros, c'est qu'il allait y avoir modifications importantes des précipitations au cours des prochaines années, hausse des températures... Et là, ben, l'industrie déjà s'adapte. Il y a eu des investissements, d'ailleurs, chez vous. Qu'est-ce qui a été fait déjà?
Bien, j'aimerais bien répondre à cette question-là avec deux points importants. La première, ce qui a été investi chez nous, cette année, on a investi $1,5 million dans la modernisation pour l'automatisation de l'enneigement, de la fabrication de neige dans une piste. L'année dernière, on avait investi tout près de 4 millions dans des canons, haute efficacité, ainsi qu'aussi la distribution d'eau dans la montagne. Donc, ça, ce sont les investissements. Les investissements dans la fabrication de neige datent des années 80. Pour ce qui est de la compagnie Les Sommets, ce qu'on a déjà vécu, je me rappelle, la fin des années 70, un Noël, là, on était chez un de mes oncles et cette journée-là, il pleuvait à grosses gouttes. Il n'y avait aucun brin de neige nulle part au Québec. Les pelouses étaient vertes, vertes, vertes. Mon père avait le visage déconfituré. Il venait d'avoir un appel de la banque disant « Monsieur Hébert, on tire la plug. » C'était à ce point difficile. Et dès après ça, on a commencé à s'investir dans la fabrication de neige. Il est évident qu'à ce moment-là, la technologie en était à ses débuts. Donc, c'était très peu performant versus aujourd'hui. Très, très énergivore. Donc, les canons à neige qui ont été inventés, si je me rappelle, là, parce que ça, déjà dans le nord-est américain, date des années fin 60, début 70, s'ils ont inventé des canons, c'est parce qu'il y avait une raison.
Il y avait un besoin.
Il y avait des aléas de la météo. Combien de fois encore on parle, mon partenaire et moi, Louis Dufour, qui est dans l'industrie depuis les années 60, en février, on perdait toute notre neige, il fallait recommencer. C'est pas nouveau pour le monde du ski, là. D'accord? On a investi déjà, je reviens, dans le début la fin des années 70, début 80, dans la fabrication de neige. Et c'est aujourd'hui devenu une condition... qu'on ne peut contourner. Et je dis tout le temps, quelqu'un qui voit une belle montagne puis veut développer une station de ski, bien, il faut que tu aies de l'eau. Pas d'eau, pas de ski. Dans l'Est de l'Amérique, aujourd'hui, c'est la condition de base.
Donc, ça veut dire que maintenant, les technologies permettent quoi d'envoyer de la neige sur les pistes quand il fait plus chaud, entre autres?
Il y a une nuance là-dedans. Premièrement, la fabrication de neige ne demande aucun produit chimique. C'est de l'eau qui est pulvérisée en fines gouttelettes dans l'air et qui gèle en tombant et qui se cristallise et qui forme un cristal, on va dire semblant neige. Là. On est pas capable de reproduire la nature exactement. Et donc, dans le passé... la technologie faisait en sorte qu'il fallait qu'il fasse à partir d'environ moins 5, peut-être moins 7 degrés Celsius pour pouvoir fabriquer de la neige en quantité suffisante pour justifier les coûts. Parce que ça devient toujours une question de coût. Mm-hmm. L'énergie demandée pour comprimer l'air, pomper l'eau en montagne et la pressuriser, c'est très énergivore. Donc, c'est là que, dans le passé, bien, il fallait attendre qu'il fasse un petit peu plus froid. Aujourd'hui, la technologie fait en sorte qu'on a fabriqué, on a conçu des canons qui peuvent atteindre une bonne efficacité, une efficacité qui se justifie par un coût un coût de fabrication qui est encore correct à partir d'environ moins 3. On garde le principe comme tel, l'eau gèle à zéro et bouille à 100. On ne changera jamais ça. Les gens disent, ah oui, la fabrication de neige, vous mettez des produits chimiques dans l'eau. Non. Il n'y a aucun produit chimique qui est connu que tu ajoutes à l'eau pour la faire geler au-dessus de zéro. Alors qu'on ne se fasse pas des accroires, là. Puis il y a même des fabricants de neige, des stations qui disent « Ah, nous, on a un système très performant, on fabrique la neige à plus 3. » Ça, malheureusement, je trouve que c'est une mauvaise publicité parce que c'est pas vrai.
Donc, ça se peut pas.
Non, il parle de température ressentie et non pas de température mesurée au thermomètre. Parce qu'on comprend qu'on parle tout le temps de facteurs refroidissement, etc. Bien, il fait moins 10, mais on dirait qu'il fait moins 15 à cause du vent. Mais c'est la même chose. Une journée, il fait moins 3, puis à cause de conditions idéales, on dit bien, il fait plus 3. Alors, ils se vendent, ils disent, ah, nous autres, on fait de la neige à plus 3. Mais c'est pas vrai.
Donc, M. Hébert, ce que je comprends, c'est que les stations de ski, comme chez vous, vous devenez vraiment à la merci de la météo. Est-ce que vous développez une expertise de vraiment dire, OK, on est capable d'analyser les conditions? Comment chez vous, il y a quelqu'un qui vraiment s'occupe de ça, qui est comme le cerveau en termes de météo, de conditions? Est-ce qu'on se penche vraiment sur aussi pointu que ça?
Non, on n'a pas d'expert. Le moment où la décision de commencer à fabriquer de la neige est directement lié à ce qui est annoncé en termes de température dans les prochaines heures. Donc, la décision dépend de deux facteurs. Premièrement, oui, la température. Il va falloir qu'il fasse moins 3 ou moins 5. Puis quand je dis ça, c'est parce que là, il y a le taux d'humidité dans l'air qui vient jouer. Mm-hmm. Plus il y a de l'humidité, plus il faut qu'il fasse froid pour que la particule d'eau gèle avant d'atteindre le sol. Donc, moins 3, moins 5. Puis deuxièmement, la durée de cette période-là. Parce qu'on ne part pas un système à neige. Ah, il va faire moins 3 ou moins 5 pendant 4 heures de temps. Et c'est de là, ça, c'est une autre technologie. Ça me permet d'introduire une autre technologie qui est maintenant disponible. C'est que lorsqu'on démarre un système à neige, là, ça ne part pas en 5 minutes, cette affaire-là. Il faut charger les lignes d'eau. Il faut comprimer l'air dans la tuyauterie, envoyer les gens, les fabricants sur les motoneiges, allumer canon par canon, et ça prend environ, tout dépendant de l'endroit où vous êtes, la piste, c'est environ 3 heures avant que tous les canons fonctionnent
à plein.
Maintenant, la nouvelle technologie, c'est l'automatisation des canons. C'est ce qu'on a investi dans une piste, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait investi 1,5 million dans une piste, c'est ce qu'on a fait. On a installé 55 canons, environ 50 pieds ou 60 pieds chacun. Et avec votre téléphone, vous pouvez partir le système à neige. Et ce qui arrive, c'est que oui, la ligne va prendre un certain temps à se charger, mais ça, ce n'est pas 3 heures, c'est environ une quinzaine de minutes avant d'avoir la pression optimale au sommet. Et les canons, automatiquement, vont s'allumer et commencer à produire de la neige. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de monter et d'allumer et de régler chaque canon un à la fois. Ça se fait automatiquement. Donc, ça prend environ une demi-heure versus 3 heures pour démarrer le système. C'est là que la technologie et qu'on parle d'efficacité parce que Tout à l'heure, je disais qu'il y avait aussi le nombre d'heures de froid qui est consécutif, qui était très important. Mm-hmm. Lorsque vous avez une fenêtre de 8 heures de froid, bien, si vous partez le système, puis ça, c'est 3 heures après que vous avez 5 heures.
Une perte, là, oui.
Une demi-heure après, bien là, vous avez 7 heures et demie ou 7 heures de production à pleine capacité. Vous avez une optimisation du temps de froid pour fabriquer votre neige. C'est là où je crois que les météorologues devraient et les gens qui analysent les changements climatiques devraient sensibiliser le public et les stations de glisse pour dire, écoutez, il va en avoir du froid. Puis les montagnes, là, ils disparaîtront pas. Ça va être d'optimiser les moments de froid pour l'utiliser pour la fabrication de neige. C'est ça qui est important.
Et c'est vraiment là-dessus que vous travaillez parce que les gens peuvent lire ça, les amateurs de ski, les amateurs de glisse, puis dire, OK, est-ce que ça va se terminer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui sont inquiets, c'est sûr et certain, qui se disent, on veut continuer à skier, comment on va faire? Il y a des partenaires aussi qui peuvent embarquer dans l'aventure, je crois. Là. On vous parliez tantôt, M. Hébert, du fait que vos appareils sont énergivores. Est-ce que Hydro-Québec pourrait embarquer là-dedans aussi pour aider? Qu'est-ce que les gouvernements, les partenaires pourraient faire pour aider à tout ça?
La question est très bonne. Oui, il est évident que l'industrie du ski, tout d'abord, c'est une industrie qui génère 800 millions de chiffres d'affaires annuellement. C'est une industrie qui est très importante au Québec, qui génère, j'essaie de me rappeler le nombre d'emplois. Je vous mentionne, chez nous, c'est 800 moniteurs de glisse et 1800 employés en tout. Donc, on est une industrie importante. Ceci dit, avec Hydro-Québec, on tente de trouver une façon d'être tarifé de façon à être équitable, bien sûr avec le marché, mais ne pas être pénalisé lorsqu'il y a du temps très froid. Je vous explique, en ce moment, Hydro doit gérer sa puissance en nous demandant, lorsqu'il fait sous une certaine température, d'éteindre nos systèmes d'enneigement. Alors que plus il fait froid, il faut comprendre que plus il fait froid, plus on peut fabriquer de la neige. La neige, on dit, il y a le coût, mais c'est le volume de neige fabriquée versus le coût. Plus il fait froid, plus la gouttelette d'eau va être grosse, plus en gelant, elle va prendre de l'expansion, plus vous créez un volume de neige. On cherche, nous, à faire du volume. C'est ça qu'on se doit de fabriquer. Alors, lorsqu'il fait très froid, on est là, ça devient beaucoup, beaucoup moins coûteux de fabriquer de la neige. Et il faut trouver une façon de travailler avec Hydro pour que, dans des moments où il fait très froid, que, oui, on puisse continuer à fabriquer sans être pénalisé. Et aussi, après ça, l'investissement dans ces canons-là, dans cette technologie-là, elle est, comme je disais, une piste, puis ça, c'est chez nous. On n'a pas une montagne avec un dénivelé important. Hein? D'ailleurs, c'est impensable qu'une grosse montagne puisse avoir un système aussi, tu sais, des canons aux 50 pieds, là, je regrette. Mais il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de grosse station qui est capable de se permettre ça. Et c'est là qu'on est fiers de notre montagne, hein, même si ce n'est pas le dénivelé que beaucoup de gens recherchent. Comme on dit un principe anglais, « small is beautiful ». Et ça nous permet d'être on peut pas se faire attraper. Il n'y a aucune compagnie qui va investir autant d'argent pour avoir autant de canons au pied que nous pour fabriquer. C'est impensable. Donc, ça coûte cher. Et les gouvernements, d'ailleurs, on a pu travailler avec le ministère du Tourisme pour soumettre des projets d'investissement et avoir une aide. Ça a été accordé l'année dernière. Puis l'industrie touristique hivernale, le ministère qui a accordé des subventions aux entreprises qui œuvraient dans le tourisme hivernal, dans le sport hivernal. Et on a présenté, nous, notre projet d'investissement qui totalisait 16,8 millions de dollars sur 3 ans. Et à cela était accordé une aide de 3 millions pour nous. On a déjà réalisé une grande proportion l'année dernière. On continue cette année. On va investir encore tout près de 11 millions de dollars dans nos installations. Puis là, vous allez me dire, M. Hébert, là, vous venez gâcher la patente parce que vous avez investi dans une remontée mécanique puis pas dans la neige. Vous avez tout à fait raison, mais c'est un équilibre. Ça prend des deux. Puis là, à un moment donné, il y a des urgences qui se... Bien, des urgences, c'est-à-dire qu'il y a des termes de fin de vie d'équipement qu'on se doit
traiter. L'entretien.
Oui, alors donc, c'est
des rénovations prévues. Donc, vous, si mon feeling est bon, là, comme on dit, vous ne semblez pas très inquiet à la suite de ce rapport-là. Vous semblez avoir la situation bien en main, là. Est-ce que je me trompe?
Je vais me garder une réserve. Je suis comptable de formation, donc un conservateur. En tout cas, on prend tous les moyens. On prend les moyens qu'on juge les meilleurs et qui s'adaptent bien à notre entreprise pour être en mesure de pallier aux variations climatiques. Je peux vous dire, partager avec vous que tout à l'heure, je vous mentionnais les années 90, lorsqu'on perdait notre neige en février, puis qu'on était fermé, puis aujourd'hui, il n'y en a plus ça. Donc, dans les années 90, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Il y en avait un, il n'y en avait pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'avait jamais été observé et étudié. Puis là, aujourd'hui, on est plus certain des conditions de glisse qu'on va offrir à nos visiteurs que dans les années 90. Mm-hmm. La qualité du produit est plus constante. Alors, oui, dans ce sens-là, on est très, très, très content de ce qu'on réalise. On est content parce qu'on regarde les sourires sur les visages de nos visiteurs. Côté financier, c'est je veux pas dire qu'on fait pitié. Non. Non, on se débrouille. Mais c'est pas... la même proportion. On fait pas plus de profit qu'avant. Je peux vous dire, c'est constant et on se débrouille avec ce qu'on a. Si on avait des moyens financiers beaucoup plus, si on était beaucoup plus performant, on en ferait plus et plus vite. Ça, c'est certain, certain, certain.
Il faut le dire, le rapport a été, il faut le rappeler, là, c'était pour les cantons de l'Est. Est-ce qu'il pourrait avoir ce même rapport-là, donc cet organisme-là de 400 quelques chercheurs qui pourraient venir faire un portrait ici dans les Laurentides, par exemple chez vous, avec Tremblant, avec bon, est-ce qu'il pourrait avoir ça? Est-ce que vous pourriez le demander, notamment avec l'Association des stations de ski du Québec?
Oui, ça peut être fait. J'y ai pensé. J'en ai pas encore parlé et j'ai pas encore... questionner la firme Uranos non plus que la SSQ. C'est quelque chose qu'on pense, mais je veux... si je commande cette étude-là, c'est parce que ça serait pour modifier mon comportement, le comportement, c'est-à-dire de mon entreprise, mm-hmm. À la suite des conclusions de et à la lumière de ce qui est sorti dans les cantons de l'Est, la différence que je verrais entre, je crois, je ne suis pas météorologue, mais qui est raisonnable de s'imaginer, je me questionne à savoir, je ne pense pas que ça changerait notre comportement.
Donc, les recommandations qui sont dans le présent rapport peuvent être données à vous aussi. Là. On va aussi s'adapter. On va prendre en considération ces recommandations-là puis les appliquer à notre région.
Tout à fait. C'est-à-dire de regarder et de se dire, OK, ça, est-ce qu'on va être affecté autant que ça? Non, mon feeling, encore une fois, mais je me dis, OK, on va l'utiliser les portions qu'on juge pertinentes pour nous et s'assurer que ce qu'on a comme stratégie s'adapte à ça, puis modifier des comportements aux besoins.
Est-ce que, M. Hébert, la force aussi des sommets, puis le fait, bon, vous parliez de finances et tout ça, c'est le fait que vous vous diversifiez aussi. Donc, sur 4 saisons, on lisait dans le rapport que les stations pourraient non pas être ouvertes seulement en hiver, au printemps, pour le ski de printemps, mais vraiment à l'année. Est-ce qu'il y a ça aussi qui vient, qui devient vraiment important?
Bien, vous posez la question, puis je crois que les faits répondent à cette question-là. En 86, lorsqu'on a construit le parc aquatique, bien, c'était en grande partie aussi pour se donner une constance dans les rentrées de fonds de l'entreprise et pallier un peu s'il y avait des hivers moins bons, en meublant une période qui était inexistante dans les stations de ski. Puis d'ailleurs, c'est devenu je ne veux pas dire une mode, mais un modus operandi dans toutes les stations que d'avoir des activités en période estivale. Pour ce qui est du ski en période estivale, celle-là, je vais vous donner, moi, mon impression personnelle. Et j'aimerais prendre l'exemple suivant, l'industrie du golf. Lorsqu'arrive le mois de mai, les golfeurs sont fébriles, ils vont jouer, les terrains, les verts ne sont pas encore à leur apogée, ne sont pas encore parfaits. Mais savez-vous quoi, là? Ils veulent jouer. Arrive fin octobre, il y a des journées magnifiques, les terrains sont immaculés, il n'y a pas un golfeur. De la même façon, dans le sport de glisse, lorsqu'on ouvre au mois de novembre, les gens se bousculent à venir skier sur du terrain limité, puis il y a du monde. En tout cas, pas mal plus que quand arrive le mois d'avril, c'est des journées magnifiques, le terrain est ouvert et couvert à 100%, puis il n'y a pas un chat. Alors, arrive, tu sais, l'être humain, là, il y a le début, là, il y a la fébrilité, puis à un moment donné, là, pouf.
Ça s'essouffle un peu.
Bien, on dirait. Puis c'est la beauté. Moi, je pense que d'être ici, dans le nord-est, j'appelle ça au Québec, c'est qu'on a 4 saisons. Je ne veux pas juger, mais tu sais, habiter en Floride à l'année, là, pas de saison. Bien, en tout cas, moi, c'est pas mon dada, puis je m'ennuierais, là. Et donc, l'été, de penser qu'il y a des gens qui skieraient, je ne crois pas. D'autant plus que la surface, là, c'est pas du tout comme de la neige. Hein. C'est un tapis avec des brosses en plastique. La sensation est très, très, très différente. Le look est différent. Le tapis est vert, couleur de gazon. Les gens me disent, ben oui, mais ils n'ont qu'à le faire blanc. Mais blanc, là, c'est mieux d'avoir des bons laveurs de tapis parce que dans l'herbe comme ça, ça reste pas blanc. Puis c'est pas beau. Bon. Et donc, c'est le feeling de glisser là-dessus.
Je suis pas sûr que
les gens embarquent. Si je peux faire l'analogie, nous au Québec, on parle beaucoup de patins à glace. Et là, il y a des patinoires en teflon, en matière synthétique. Bien, patiner là-dessus versus patiner sur de la vraie glace pour l'avoir essayé, c'est pas du tout la même chose. Puis c'est pas quelque chose dans laquelle je crois.
On le sait, M. Hébert, il y a eu de la neige, il y a eu des précipitations cet hiver. Là, je vois votre sourire. Est-ce que vous êtes comme sur un nuage présentement avec les précipitations? On a une belle saison. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi chez vous?
Oui, on a une très belle saison. Être sur les nuages, c'est très heureux pour nous. C'est un ingrédient qui est très important pour que les gens viennent nous visiter parce que c'est encore le modèle où les gens pensent que s'il n'y a pas de neige chez eux, le ski sera moins bon. Et c'est curieux parce que depuis qu'on fabrique la neige, comme je disais tout à l'heure, là, dans les années 90, là, il y a des journées, là, quand tu dis pas beau, là, c'était pas beau là, parce que tu n'avais pas de fabrication de neige. La fabrication de neige amène une constance dans la qualité de glisse. Puis là, les gens, ils disent, « Ah, ça devient durci, ça devient un peu... » Mais je comprends, parce qu'il y a plus de monde. Dans les années 90, quand c'était pas beau, là, il n'y avait pas un chat, là. Bien, il avait raison, parce que la fabrication de neige n'y était pas. Là, maintenant, lié, les gens, ils comprennent un peu plus, mais ce n'est pas encore assez. Et d'ailleurs, la nouvelle piste que je mentionnais tout à l'heure nous permet de faire un rafraîchissement pendant une nuit. On part ça là, pendant 5-6 heures, tous les canons, une petite neige, parce que les canons sont aussi équipés de thermomètres qui régularisent la quantité d'eau qui va sortir selon pour produire une qualité de neige qu'on définit à l'avance sur la programmation du canon.
Alors, sur le téléphone, là.
Bien, sont les programmes sur l'écran d'ordinateur, là, mais, okay. mais alors, on n'a pas besoin d'envoyer que les gars qui sont en fabrication de neige d'aller à chaque canon puis régler la quantité d'eau. Ça se fait automatiquement. Et on l'a connu, on l'a vécu. La qualité du produit est vraiment exceptionnelle et très, très, très améliorée avec ce nouveau système-là. Donc, s'il y a un moment où on a un aléa de température, on repart ça, rafraîchir la couche de glisse avec de la neige fabriquée qui est super à glisser. Puis,
le tour est joué.
Ouais.
Est-ce que cette technologie-là pourrait aller sur d'autres pistes? Est-ce que...
Ah ben oui, elle peut aller sur d'autres pistes. Mais quand on dit que c'est 1,5 million par piste, quand tu as 36 pistes ou 40 pistes, ça commence à faire des bidous. Et c'est là, bien, tout à l'heure, on mentionnait les programmes d'aide. Bien, oui, il y aurait matière à travailler ça. Oui.
Avec les gouvernements.
Oui, puis de plus en plus, on est visité par les résidents ontariens. On est visité par les gens du nord-est américain. C'est en très bonne croissance. Donc, c'est économiquement parlant, pour la province, pour la région, c'est bénéfique.
Monsieur Hébert, un grand plaisir que vous nous ayez expliqué tout ça. Puis on se dit à bientôt sur les pistes.
J'espère. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité.